Les nuits de la lecture. Lettre de Frida Kahlo à Diego Rivera.
« 12 septembre 1939. Ma nuit est comme un grand cœur qui bat. Il est 3h30 du matin. Ma nuit est sans lune. Ma nuit a de grands yeux qui regardent fixement, une lumière grise filtrée par les fenêtres. Ma nuit pleure et l'oreiller devient humide et froid. Ma nuit est longue et longue et longue et semble toujours s'étirer vers une fin incertaine. Ma nuit me précipite dans ton absence. Je te cherche. Je cherche ton corps immense à côté de moi. Ton souffle, ton odeur. Ma nuit me répond. Vide. Ma nuit me donne froid et solitude. Je cherche un point de contact. Ta peau. Où es-tu? Où es-tu? Je me tourne dans tous les sens. L'oreiller humide. Ma joue s'y colle. Mes cheveux mouillés contre mes tempes. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas là. Ma terre erre, mes pensées vont, viennent et s'écrasent. Mon corps ne peut pas comprendre. Mon corps te voudrait. Mon corps, cet aléa mutilé, voudrait un moment s'oublier dans ta chaleur. Mon corps appelle quelques heures de sérénité. Ma nuit est un cœur en serpillière. Ma nuit sait que j'aimerais te regarder. Chaque courbe de ton corps. Reconnaître ton visage et le caresser. Ma nuit m'étouffe du manque de toi. Ma nuit palpite d'amour, celui que j'essaye d'endiguer, mais qui palpite dans la pénombre, dans chacune de mes fibres. Ma nuit voudrait bien t'appeler, mais elle n'a pas de voix. Elle voudrait t'appeler pourtant, et te trouver, et se serrer contre toi un moment, et oublier ce temps qui massacre. Mon corps ne peut pas comprendre. Il a autant besoin de toi que moi. Peut-être qu'après tout, lui et moi ne formons qu'un. Mon corps a besoin de toi. Souvent, tu m'as presque guéri. Ma nuit se creuse jusqu'à ne plus sentir la chair et le sentiment devient plus fort, plus aigu, dénué de la substance matérielle. Ma nuit me brûle d'amour. Il est 4h du matin. Ma nuit m'épuise. Elle sait bien que tu me manques. Et toute son obscurité ne suffit pas pour cacher cette évidence. Cette évidence brille comme une lame dans le noir. Ma nuit voudrait avoir des ailes qui voleraient jusqu'à toi, t'envelopperaient dans ton sommeil et te ramèneraient à moi. Dans ton sommeil, tu me sentirais près de toi et tes bras m'enlaceraient sans que tu me réveilles. Ma nuit ne porte pas conseil. Ma nuit pense à toi, rêve éveillé. Ma nuit s'attriste et s'égare. Ma nuit accentue ma solitude, toutes mes solitudes. Son silence n'entend que mes voix intérieures. Ma nuit est longue et longue et longue. Ma nuit aurait peur que le jour n'apparaisse jamais, plus, mais à la fois ma nuit craint son apparition, parce que le jour est un jour artificiel où à chaque heure compte double et sans toi n'est plus vraiment vécu. Ma nuit se demande si mon jour ne ressemble pas à ma nuit, ce qui expliquerait pourquoi je redoute le jour aussi. Ma nuit a envie de m'habiller et de me pousser dehors pour aller chercher mon homme. Mais ma nuit sait que ce que l'on nomme folie de tout ordre, sème désordre, est interdit. Ma nuit se demande ce qui n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de faire corps avec elle, ça, elle le sait. Mais elle s'offusque de voir une chair faire corps avec elle au fil de la désespérance. Une chair n'est pas faite pour épouser le néant. Ma nuit t'aime de toute sa profondeur, et de ma profondeur elle résonne aussi. Ma nuit se nourrit d'échos imaginaires. Elle, elle le peut. Moi, j'échoue. Ma nuit m'observe. Son regard est lisse et se coule dans chaque chose. Ma nuit voudrait que tu sois là pour se couler en toi aussi, avec tendresse. Ma nuit t'espère, mon corps t'attend. Ma nuit voudrait que tu te reposes au creux de mon épaule et que je me repose au creux de la tienne. Ma nuit voudrait être voyeur de ta jouissance et de la mienne, te voir et me voir trembler de plaisir. Ma nuit voudrait voir nos regards et avoir nos regards chargés de désir. Ma nuit voudrait tenir entre ses mains chaque spasme. Ma nuit se ferait douce. Ma nuit gémit en silence sa solitude au souvenir de toi. Ma nuit, tes linges, est longue et longue. Elle perd la tête, mais ne peut t'éloigner ton image de moi, ne peut engloutir mon désir. Elle se meurt de ne pas te savoir là et me tue. Ma nuit te cherche sans cesse. Mon corps ne parvient pas à concevoir que quelques rues ou une quelconque géographie nous sépare. Mon corps devient flou de douleur de ne pouvoir reconnaître au milieu de ma nuit ta silhouette ou ton ombre. Mon corps voudrait t'embrasser dans ton sommeil. Mon corps voudrait en pleine nuit dormir et dans ces ténèbres être réveillé parce que tu l'embrasserais. Ma nuit ne connaît pas de rêve plus beau que celui-là. Ma nuit hurle et déchire ses voiles. Ma nuit se cogne à son propre silence. Mais ton corps reste introuvable. Tu me manques tant, et tes mots, et ta couleur. Le jour va bientôt se lever.
Les nuits de la lecture. Lettre de Paul Valéry à Jean Voilier.
Chérie, trop chérie, je deviens fou de penser à toi. Je dis fou car cette obsession se fait anormale. Ce matin, j'en étais malade, je te voyais et je te touchais. Et cet état était autre que sexuel. Un besoin criant de tes mains, de tes bras, de te tenir, d'être tenu par toi, de te respirer, respirer avec toi. Cela tient à ma faiblesse nerveuse, sans doute. Il doit sembler à mon être profond qu'un abîme de tendresse nommé toi l'apaiserait, le reconduirait par la modulation la plus douce de la beauté vers sa paix et sa limpidité d'esprit. Pardonne-moi cette sotte effusion. Pardonne-moi aussi de souffrir quand je te sens toute distraite par ton nouveau joujou, tes plans, tes aménagements, sans compter tous les plaisirs de la saison de Paris. Je meuble, moi aussi. Mais hélas, je meuble cette solitude de ces vaines idées qui se développent dans la fatigue. J'ai comme peur de rentrer et cependant je me consume ici, devant ton image. Je changerai lundi de séjour. J'irai à Marseille et à Cassis pour peu de jours. Te donnerai mon adresse. Tes lettres sont gentilles, mon cœur, mais si rapide. Je sais que tu as beaucoup à faire, mais songe, toi, à la sensation de se sentir avec tant d'amour, comme dissous en toi dans cette quantité d'occupation. Comprends qu'il y a un cœur très gros qui fait écrire tout ceci, que je l'écris malgré moi, que je me reproche de l'écrire, mais je ne puis. Mais comment te faire comprendre ce que je ne comprends pas moi-même? Et puis, il ne s'agit pas de comprendre.
Les nuits de la lecture. Lettre de Colette à Missy.
Décembre 1908. Ma chérie aimée, il est minuit et demi. Je suis lavée et ma malle est défaite. L'hôtel est affreux, antique, des alcôves. Mais on a enlevé les portes d'alcôves et mis des radiateurs. Et les gens ont l'air charmants. C'est patriarcal, démodé, tranquille, 6 francs. Il est donc probable que j'y resterai. Je t'écris tout de suite pour me rapprocher un peu de toi. Je viens de donner une dépêche qui partira le matin de bonne heure. La répétition est à 10h du matin, on arrête à midi et on reprend à 2h. Ça promet. Je m'en fiche. J'aime mieux être fatiguée, le temps paraît moins long. Ma chérie, je ne veux plus m'en aller comme ça. Ton faux enfant puni se lamente en dedans. Et puis, je vais acheter une lampe à pétrole demain pour écrire. L'électricité est trop haute. Dis à Willy, mon amour, 2 choses. Que Maurice Boutry m'a payé à dîner à Dijon et que je suis arrivée au Globe en même temps qu'Émilienne de Serres, la sœur de Louis. Ça lui peindra tout de suite le genre de l'hôtel. J'ajoute pour toi, mon chéri, que Maurice Boutry est un cousin éloigné de Willy. Je me couche. Je t'embrasse. Je pense avec une amertume insupportable à notre joli chez-nous, à ta chambre bleue et argent, à ma chambre rose, à la lumière blanche et gaie, à ta chère figure, et alors... Mais je me retiens. Je t'aime. Je te suis jusqu'au fond de moi, profondément reconnaissante, de tout ce que tu es pour moi, de tout ce que tu fais pour moi. Je t'embrasse de tout mon cœur, mon amour chéri. Ta Colette. Je me suis arrêtée pour saigner du nez. Ça ne peut pas me faire de mal.
Les nuits de la lecture. Lettre de Khalil Gibran à May Ziadeh.
« 26 février 1924. Vous me dites que vous avez peur de l'amour. Pourquoi cela, ma tendre amie? Avez-vous peur de la lumière du soleil? Avez-vous peur du flux et du reflux de la mer? Avez-vous peur du jour naissant? Avez-vous peur du retour du printemps? Je m'en demande pourquoi vous avez peur de l'amour. Je sais que l'amour d'une âme basse ne peut vous satisfaire, tout comme je sais qu'il ne peut pas me plaire. Vous et moi ne saurons jamais satisfaire de ce qu'il y a de mesquin dans l'esprit. Nous voulons tout en quantité. Nous voulons tout avoir. Nous voulons la perfection. Je dis, Mary, que dans cette aspiration qui est la nôtre, se trouve notre accomplissement. Car si notre volonté n'était qu'une ombre parmi les innombrables ombres de Dieu, nul doute que nous n'atteindrions l'un des nombreux rayons de sa lumière. Oh, Mary, n'ayez pas peur de l'amour. N'ayez pas peur de l'amour, ami de mon cœur. Nous devrons nous soumettre à lui, malgré ce qu'il peut nous apporter de souffrance, de désolation, de nostalgie, de perplexité et de confusion. Écoutez, Mary. Aujourd'hui, je suis dans une prison de désirs, qui sont nés lorsque moi-même je suis venue au monde. Et aujourd'hui, je me trouve entravée par les chaînes d'une idée aussi vieille que les saisons de l'année. Pouvez-vous faire montre de mansuétude à mon égard, dans ma prison, afin que nous puissions émerger enfin à la lumière du soleil? Resterez-vous près de moi jusqu'à ce que ces chaînes soient détruites et que nous puissions marcher librement et sans entrave jusqu'au sommet de la montagne? Et maintenant, venez plus près. Rapprochez votre front de moi, comme ceci, comme ceci. Et que Dieu vous bénisse et vous protège. Compagne bien-aimée de mon cœur.
Les nuits de la lecture. Lettre d'Édith Piaf à Marcel Cerdan.
Casablanca, vendredi 22 juillet 1949. Mon adoré, j'ai tant de choses à te dire, et puis tout se bouscule. Et je me rends compte... à chaque fois que je termine une lettre, que j'avais encore 1000 trucs à écrire et que c'est encore une fois trop tard. La seule phrase que je n'oublie jamais, c'est que je t'aime de plus en plus et que je suis complètement folle de toi. C'est vrai, mon adoré, je m'habitue de moins en moins à nos séparations et mon cœur se déchire à chaque fois un peu plus. Je t'aime si profondément, si fort dans moi, je suis imprégné de toi et je n'ai qu'une seule idée, te rendre heureux. Je serais capable de tout pour ton bonheur. Si tu savais les idées qui me traversent la tête, j'ai tant peur que tu aies de la peine à cause de moi. Je ne veux jamais être une entrave à ton cœur. Quand je m'aperçois, mon amour, la place que tiennent dans ton cœur tes trois petits, j'ai envie de partir très loin, me disant que peut-être un jour tu me seras reconnaissant de l'avoir fait. Ta vie est si solidement bâtie sur des choses que tu as voulu et construites toi-même que des fois... j'ai des peurs atroces. Ô chérie, Dieu m'est témoin que dans cette histoire, je ne demande rien et que je suis prête à tout sacrifier. Mais jusqu'à quand pourrons-nous vivre ainsi? Une lettre? Un téléphone? Une stupide coïncidence peut nous trahir. Et alors? Que deviendrons-nous? Quelle sera ta réaction? As-tu pensé à toutes ces choses? Il le faut pourtant, car je ne veux pas qu'un jour tu me gardes une rancune de ce qui peut advenir. Cela devient de plus en plus difficile pour nous et mon cœur tremble à chaque minute. Je veux que tu penses à nous froidement, que tu regardes bien au fond de toi et savoir aussi les responsabilités à envisager au cas où. Comment es-tu? Je suis si inquiète. Tu me ferais trembler tout le temps. Peut-être en Amérique, allons-nous enfin être heureux. Chérie, je t'aime tant, tu ne peux savoir à quel point. Tout au monde pour toi je ferai. Je me jette dans tes bras que j'adore, je t'appartiens, tout petit adoré, que j'aime. Serre-moi fort contre ton cœur et empêche-moi de respirer et dis-toi que rien au monde ne compte pour moi que toi et je te le jure sur ma voix, ma vie, mes yeux. Chérie, chérie, j'aimerais passer toute ma vie à tes pieds et te servir. Tu es si merveilleux et je t'admire tant. Momone et Loulou t'embrassent. Quant à moi, je te fais ce que tu veux. Moi, petite.
Les nuits de la lecture. Lettre d'Oscar Wilde à Lord Alfred Douglas.
Pour vous, vous avez donné la beauté de la vie à mon passé. Et vous embellirez de même mon avenir si je dois en avoir un. C'est pourquoi je vous serai éternellement gré de m'avoir inspiré amour et adoration. Ces jours de plaisir ont été notre aurore. À présent, dans l'angoisse et la peine, dans la tristesse et dans l'humiliation, je sens que mon amour pour vous, votre amour pour moi, sont les deux pôles de la vie, les sentiments divins qui rendent cette amertume supportable. Jamais, de toute ma vie, personne ne me fut plus cher que vous. Jamais amour ne fut plus grand, plus sacré, plus splendide. Cher petit, au sein des plaisirs comme en prison, vous et penser à vous ont été tout pour moi. Oh, gardez-moi toujours dans votre cœur, vous n'êtes jamais absent du mien. Je pense à vous beaucoup plus qu'à moi-même, et si, parfois, la pensée de mon horrible et infâme souffrance vient me torturer, le seul fait de penser à vous suffit à me rendre mes forces et à panser mes plaies. Que la destinée Némésis ou les injustes dieux reçoivent seuls le blâme pour tout ce qui m'arrive. Tout grand amour comporte une tragédie, et c'est maintenant le tour d'une autre. Mais vous avoir connu, vous avoir aimé d'une tendresse si profonde, vous avoir eu pendant une partie de ma vie, la seule partie que j'estime à présent magnifique, est suffisant pour moi. Ma passion est à court de mots, mais vous, vous seul pouvez me comprendre. Nos âmes étaient faites l'une pour l'autre, et en connaissant la vôtre par l'amour, la mienne a surpassé mille mots, a compris la perfection et pénétré dans la divine essence des choses. La douleur, quand elle vient, ne peut durer toujours. Il est certain qu'un jour nous nous retrouverons. Et mon visage eut-il pris le masque de la tristesse ? Mon corps fut-il épuisé par la solitude ? Vous et vous seul reconnaîtrez l'âme qui est plus belle pour avoir connu la vôtre, l'âme de l'artiste qui trouva son idéal en vous, celle de l'amoureux de beauté à qui vous apparut comme un être sans faille, comme un être parfait. Ici, je pense à vous comme à un ange aux cheveux d'or, ayant en lui le cœur même du Christ. Je sais à présent de combien l'amour est plus grand que tout au monde. Vous m'avez appris le secret divin de l'univers.
Les nuits de la lecture. Lettre de Françoise Sagan à un amant inconnu.
Puisque nous ne nous aimons plus, puisque tu ne m'aimes plus en tout cas, je dois prendre des dispositions pour les funérailles de notre amour. Après cette longue nuit, chuchotante et étincelante et sombre que fut notre amour, arrive enfin le jour de ta liberté. C'est alors que moi, restant seul propriétaire de cet amour sans raison, sans but et sans conséquence, comme tout amour digne de ce nom, moi, propriétaire cupide, hélas, qui avait placé cet amour en viager, le croyant éternel, puisque te croyant amoureux, c'est alors que je décide, n'étant saine ni de corps ni d'esprit, et fier de ne pas l'être, je te lègue le café où nous sommes rencontrés. Il y avait Richard avec moi et Jean avec toi, ou le contraire. Au coin de la rue d'Assas et de la rue de Seine, nous nous sommes vus, évalués, et plus. Tu m'as dit « Je vous connais sans vous connaître. Pourquoi riez-vous » Et je te répondis que je riais de cette phrase idiote. Après, tu me regardais, l'air penché et mystérieux, croyais-tu ? Que vous êtes bêtes, vous les hommes, et attendrissants à force. Ils partirent, Richard et Jean, nous laissant là. Tu pris ma main ou je pris la tienne. Je ne sais pas la suite. L'amour, c'est tellement ordinaire. Je passe sur la nuit. Beau, tu étais beau. Derrière toi bougeait le rideau fleuri de la maison de passe. Tu me disais, pourquoi pas avant? Pourquoi jusque-là? Pourquoi ce vent? Passons, il faut passer. J'ai tant de choses à te léguer. La première maison, ce n'était rien. Nous n'habitions nulle part, nous habitions la nuit. À force d'amour, de cris et d'insomnie, nous devenions phosphorescents de corps, exsangues. Je devenais femme vestale. Des cigarettes abandonnées brûlaient doucement, comme moi, dans la nuit, sans s'éteindre. Tiens, je te lègue ça. Un de ces mégots si longs, si écrasés, si significatifs. Te voilà bien loti, un café triste et un mégot. Je cherche des traces et je trouve des symboles. Je te hais. Comme toi, à l'époque, par moments, tu me haïssais.
Les nuits de la lecture. Lettre de Guillaume Apollinaire à Lou.
Guillaume Apollinaire à Lou, 28 octobre 1914. Je pense à toi sans cesse. Rapporte aussi tes lettres à Nice que je les relise, dans les entr'actes que l'amour voudra bien nous laisser les plus courts possibles. Je te lèche partout, te bois, t'adore, loup adorable. Je te prends toute, comme mon bien, mon seul bien, ma seule chose précieuse, la seule chose qui vaille la peine qu'on la désire, la seule chose qui vaille la peine qu'on soit soldat pour la défendre. Tu es cela, mon loup adoré. Je t'embrasse. Je pense à tes cheveux qui sont mon or et ma gloire. Ils sont toute ma lumière dans la nuit noire. Et tes yeux sont les fenêtres d'où je veux regarder la vie et ses bonheurs, la mort qui vient t'aider.
Les nuits de la lecture. Lettre d'Anaïs Nin à Antonin Artaud.
Nanaki. Je voudrais revivre mille fois ce moment sur les quais et toutes les heures de cette soirée. Je veux sentir encore cette violence et votre douceur, vos menaces, votre despotisme spirituel, toutes les craintes que vous m'inspirez et les joies si aiguës. Mais tout semble se résoudre, se fondre dans l'étreinte, dans la confiance de l'instinct, dans la chaleur et la fusion des corps. Je crois entièrement à ce que nous sentons l'un en face de l'autre. Je crois à ce moment où nous avons perdu toute notion de la réalité et de la séparation et de la division entre les êtres. Après cela, tout est devenu simple. Simple et grand et doux. Le toi qui fait presque mal tellement il lit, le toi et tout ce que tu m'as dit. J'oublie les mots, j'entends la tendresse et je me souviens que tu as été heureux. Tout le reste ne sont que tortures de nos esprits, les fantômes que nous crions. Parce que pour nous, l'amour a des répercussions immenses. Il doit créer, il a un sens en profondeur, il contient et dirige tout. Nanaki, ce soir je ne veux pas remuer les idées, je voudrais ta présence. Est-ce qu'il t'arrive de choisir ainsi un moment précieux, notre étreinte sur les quais, et de t'y raccrocher, de fermer les yeux, de le revivre fixement, comme dans une transe où je ne sens plus la vie présente, rien, rien que ce moment. Et après, la nuit, la succession de tes gestes et de tes mots, de la fièvre, de l'inquiétude, un besoin de te revoir, une grande impatience.
Les nuits de la lecture. Lettre de Marcel Schwab à Marguerite Moreno.
Je m'ennuie. Je m'ennuie, Marguerite, sitôt que je ne suis plus avec toi. Que faire? C'est affreux. Je sens que je ne dormirai pas cette nuit. J'ai ta fièvre. Je te parle pendant que je ne dors pas. Je te dis que je t'aime. Que je t'aime. Oui, je t'aime, éperdument. J'ai parlé de l'amour avant toi, mais je ne savais pas ce que c'est. Je sens que je pourrais être assassin, voleur et incendiaire. Et j'ai peur. J'ai peur parce que je ne me sens pas digne de toi. Tu es si jolie. Tous les jours, tu es plus jolie. Et autrement, voilà ce qui me fait peur. Je suis toujours le même et je voudrais inventer de nouveaux mots pour te plaire. Des mots transparents de cristal, chérie. Des mots sanglants. Words of spring. Words with like stones. Je vois tes lèvres qui buvaient hier soir. Pour moi, chérie. J'entends ta voix qui dit doucement, tu sais être si douce sous ta pluie de cheveux. I'm so thirsty this afternoon. Et aujourd'hui, j'étais si fier et si jaloux d'être avec toi dans la rue. Et j'aurais voulu rester si longtemps agenouillé devant ton tiroir avec toi, pendant que tu me donnais à becqueter des miettes de ta vie. Je t'aime tant, beaucoup à cause de cela. Je voudrais t'entourer d'amour pour que tu reposes mollement. Mon adoré, je ne sais pas ce que je t'écris. J'ai la fièvre d'amour. Pardonne-moi si ce que je dis est mal. Je te jure que je ne sais pas ce que je fais. Je voudrais être plus intelligent pour mieux te comprendre, pour savoir tout. Et je voudrais que tu m'emmènes loin, très loin, dans le midi que tu aimes, pour voir s'épanouir ta jolie bouche rouge, pour te voir t'odorer. À Venise, chérie, un peu fiévreux, il me semble que je te vois, là. Tu serais comme la Renée de George Meredith, like a delicate cup of crystal brimming full of the beauty of the place. S'il y a encore là des palais obscurs qui tremblent dans l'eau immobile, je veux te voir contre leurs murailles. Laisse-moi te regarder là. Et puis, mourir de toi, car je ne veux plus rien. I shall drain beauty out of my fair cup of crystal, out of the trembling curve of the red mouth of my love. I'm yours, and to death, Marcel. Marguerite, je suis fou de toi, c'est affreux. Je suis égaré, je tremble et je ne pense qu'à toi. Qu'à ton nom. Sitôt que tu n'es plus là, je t'écris. Et tes lettres sont si courtes. Elles me font si peu vivre avec toi pendant que tu n'es pas là. Ma petite Marguerite, chérie, je t'en supplie. Aie pitié de moi. Crois que je suis dans un état qui ne paraît pas possible. Tu sais que Sappho disait à celle qu'elle aimait, quand je te vois, mes yeux se couvrent de nuit. Ma langue se glace. Je tremble. Chérie, comment faire? J'éprouve tout cela quand je suis seul de toi. Ma vie est en toi. Je t'aime, je t'aime. Je ne peux pas te dire ce que c'est que cet amour. Il me tient partout et au cœur et à la pensée. Je t'admire, ma chérie, et je t'appartiens. C'est si extraordinaire que tu veuilles me prendre, oh chérie. Je pense que je suis sous tes cheveux et que ta bouche est près de mon oreille. Et que tu me dis tout ce que tu veux. Jamais je ne me guérirai de toi. Ne me force jamais à me guérir de toi, je n'y résisterai pas. Dieu, que tu étais jolie. Moi qui n'avais pas envie de vivre comme j'ai peur d'être malade et de ne pas te voir. Crois-tu qu'on aime vraiment? Que tout ce qui est dans les livres que nous faisons est faux, vilain et bête. Ma chérie, il n'y a que toi. Que toi. Je ne sais pas ce que je t'écris. Il me semble que je te parle. Si tu savais comme il faut que je t'aime, Marguerite, pour t'écrire tout ce qui me vient au cœur. Aime-moi, je t'en supplie. Ma chérie, je t'en conjure, aie pitié de moi. Je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras.
Les nuits de la lecture. Lettre de Julie de Lespinasse au comte de Guibert.
11h du soir, 1774. Je parie que vous n'êtes pas aussi endormie aujourd'hui que vous l'étiez hier à cette heure-ci. Et cela est bien simple. On vous amuse, on vous intéresse, et vous avez envie de plaire. Mon ami, vous n'êtes pas fait pour l'intimité. Vous avez besoin de vous répandre. Le mouvement, le brouhaha de la société vous sont nécessaires. Ce n'est pas le besoin de votre vanité, mais c'est celui de votre activité. La confiance, la tendresse, cet oubli de soi et de tout amour propre, tous ces biens sentis et appréciés par une âme tendre et passionnée, éteignent et engourdissent la vôtre. Oui, je le répète, vous n'avez pas besoin d'être aimé. Quelle étrange méprise, mon Dieu! Et j'ose accuser certaines gens de manquer de discernement. J'ose dire qu'ils n'observent rien, qu'ils ne connaissent pas les hommes. Ah, comment ai-je été égaré, trompé à un tel excès? Comment mon esprit n'a-t-il pas arrêté mon âme? Et comment se fait-il qu'en vous jugeant sans cesse, je sois toujours entraîné? Vous ne connaissez pas la moitié de l'ascendant que vous avez sur moi. Vous ne savez pas ce que vous avez à vaincre chaque fois que je vous vois. Vous ne vous doutez pas de tous les sacrifices que je vous fais. Vous ne savez pas à quel point je renonce à moi pour être à vous. Je vous dirais comme Phèdre, il fallait bien souvent me priver de mes larmes. Oui, mon ami, je me prive avec vous de tout ce qui m'est le plus cher. Je ne vous parle ni de mes regrets, ni de mes souvenirs. Et ce qui m'est plus cruel encore, je ne vous laisse voir qu'une partie de la sensibilité dont vous remplissez mon cœur. Je retiens la passion que vous excitez dans mon âme. Je me dis sans cesse, il n'y répondrait pas, il ne m'entendrait pas et je mourrais de douleur. Concevez-vous, mon ami, l'espèce de tourment auquel je suis livrée? J'ai des remords de ce que je vous donne et des regrets de ce que je suis forcée de retenir. Je m'abandonne à vous et je ne me livre pas à mon penchant. En vous cédant, je me combats encore. Ah, m'entendrez-vous et saurez-vous, du moins par la pensée, ce que je sens et ce que vous me faites souffrir? Oui, vous aurez un retour vers moi, parce que vous avez cette sensibilité qui fait qu'on s'intéresse aux malheureux et qu'on les plaint. Mais je ne sais pourquoi je me permets ce moment d'épanchement. Je sais du reste que je ne trouverai point de consolation dans votre cœur. Mon ami, il est vide de tendresse et de sentiments. Vous n'avez qu'un moyen de m'enlever à mes maux, c'est en m'enivrant. Et ce remède même est le plus grand de mes malheurs. Bonsoir, mon ami. Donnez-moi de vos nouvelles. Mon laquais a ordre de retourner chercher votre réponse. Adieu encore, je suis fatiguée. J'ai vu, je crois, 40 personnes aujourd'hui, et je n'en désirais qu'une, une dont sûrement la pensée ne s'est pas tournée une fois vers moi.
Les nuits de la lecture. Lettre de Paul Éluard à Gala.
Nice, juin 1929. Samedi. Après tout, c'est mieux que tu n'aies pas reçu cette lettre. Elle était très malheureuse dans tous les sens du mot. Mais ce soir, où j'ai l'impression de vivre, je suis content, très content, ma Gala. La seule, que tu n'aies pas eu de peine. Et je respire bien. C'est quand je suis très malheureux, et la nuit de mardi à mercredi, j'ai été très, très malheureux, que je ne voudrais plus te voir. Mais quand, comme aujourd'hui, j'ai 3 rendez-vous, tous les succès, des livres nouveaux, que la vie reprend, alors je ne veux pas être injuste avec toi et ta pensée. Ton existence en moi se substitue à cette vie, et je rêve d'être avec toi, au lieu d'être avec le monde. Le poème, que je ne t'envoie pas parce qu'il te gâcherait cette lettre, le long poème t'expliquera comme j'ai été malheureux. Et tout s'y mettait. Je ne veux rien te dire car maintenant c'est passé, complètement évité. Mais j'avais à craindre des choses horribles, pire que la mort. L'amour n'était plus présent. Et cela avait l'air d'un châtiment. C'est une affreuse idée chrétienne, démoralisante et bien impossible à supporter. Et tu m'avais écrit un petit peu maladroitement. Je n'étais plus libre d'esprit. Ma chère, tout cela est fini, fini, fini. Je t'aime, tu es vraie et belle. L'amour est au-dessus de tout, avec Gala. Ma Gala à moi seulement, dans un monde à moi seulement. Dis à Gaillard que je l'aime bien. As-tu reçu la lettre avec les clés ?
Les nuits de la lecture. Lettre de Simone de Beauvoir à Nelson Algren.
Je ne suis pas triste, assommé plutôt, très loin de moi-même, incapable de croire vraiment que désormais vous serez si loin, vous qui étiez si proche. Avant de partir, je veux vous dire deux choses seulement. Après, je n'en parlerai plus jamais, promis. La première, c'est mon espoir de vous revoir un jour. Je le veux, j'en ai besoin. Cependant, souvenez-vous, je vous en prie, que jamais je ne demanderai à vous voir. Pas par fierté avec vous, je n'en ai pas, vous le savez, mais parce que notre rencontre n'aura de sens que si vous la souhaitez. J'attendrai donc. Quand vous le souhaiterez, dites-le. Je n'en conclurai pas que vous avez recommencé à m'aimer, pas même que vous désiriez coucher avec moi. Nous ne serons nullement obligés de rester ensemble longtemps, juste quand et autant que vous en aurez envie. Sachez que moi, je désirais toujours que vous le demandiez. Autre chose à propos de nous, l'an dernier, notre amour a débuté dans la facilité d'un film rose. Très bien. Désormais, il s'est transformé en une aventure humaine bien terrestre, ce qui peut valoir infiniment plus pour peu que nous nous en donnions la peine. Êtes-vous de mon avis ? Simone.
Les nuits de la lecture. Lettre de John Keats à Fanny Brown.
Ma douce amie, votre lettre m'a emplie d'une joie immense, de celle que vous seule au monde êtes en mesure de me procurer. Je suis même presque stupéfait de constater l'empire qu'une personne absente peut exercer sur mes sens. Lors même que je ne pense pas à vous, votre influence parvient jusqu'à moi et m'attendrit. Il faut me rendre à l'évidence. Toutes mes pensées, mes nuits et mes jours les plus misérables, loin de me guérir de mon amour de la beauté, l'ont intensifié au point que je suis affligé que vous ne soyez pas auprès de moi. Ou plutôt, je respire avec cette patience morne qu'on ne peut aucunement appeler la vie. Je n'ai jamais connu un amour de la sorte que vous m'avez fait connaître. Je n'y croyais pas. Mon imagination le redoutait de peur d'en être consumé. Mais si vous voulez m'aimer de tout votre cœur, le feu brûlera peut-être, mais la brûlure sera rendue supportable par la rosée des plaisirs. Vous parlez de gens odieux et me demandez s'il dépend d'eux que je vous revoie jamais. Comprenez-moi bien, mon amour, sur ce point. Je vous porte une telle affection qu'il me faudrait me changer en mentor s'il pouvait vous arriver le moindre mal. Je ne voudrais voir que plaisir en vos yeux, amour sur vos lèvres et bonheur sur vos pas. J'aspire à vous voir au milieu des amusements qui sied à vos inclinations et à vos humeurs, afin que nos amours ne soient que délices au milieu d'autres très agréables, plutôt qu'un expédient pour échapper aux tracas et aux soucis. Pourtant, je doute beaucoup. Le pire dût-il se produire, d'être assez philosophe pour suivre mes propres leçons. Si je devais, par ma résolution, vous faire de la peine, je ne pourrais pas. Pourquoi me défendre d'évoquer votre beauté, puisque sans elle, je n'aurais jamais pu vous aimer. Je ne conçois, hors la beauté, aucune autre origine possible à un amour tel que celui que j'éprouve pour vous. Il doit exister une sorte d'amour, je le dis sans le moindre sarcasme, que je respecte au plus haut point et que je peux admirer chez les autres. Mais cet amour ne possède pas l'éclat, la splendeur, l'achèvement ou l'enchantement propres à l'amour tel que se le figure mon cœur. Laissez-moi donc évoquer la beauté qui est la vôtre, à mes risques et périls, car vous pourriez me faire la cruauté d'exercer ailleurs son pouvoir. Vous craignez, dites-vous, que je pense n'être point aimé de vous. Ces mots accusent ma douleur de n'être pas à vos côtés. Ici, je m'applique avec zèle à servir mes facultés, et pas un jour ne s'écoule sans que je répande quelques vers blancs ou que j'ajoute çà et là quelques rimes. Lors, je dois vous avouer, puisque j'aborde ce sujet, que je vous aime d'autant plus que je vous ai plu à ce, je crois, à ce que je crois pour ce que je suis et rien d'autre. J'ai rencontré des femmes qui, j'en suis persuadé, aimeraient fort se voir l'épouse d'un poème et être conduites à l'autel par un roman. J'ai vu votre comète, si seulement ce pouvait être un signe que l'état du pauvre Rice va s'améliorer, lui que la maladie rend mélancolique compagnon. Et ce, au point de réprimer ses sentiments et de me les dissimuler avec un jeu de mots forcés. J'ai baisé vos lignes dans l'espoir que vous m'ayez fait la grâce d'y laisser une trace de miel. Quel rêve avez-vous fait? Dites-moi votre songe et je vous en donnerai l'explication. Tout à vous, mon amour, John Keats.
Les nuits de la lecture. Lettre de Virginia Woolf à son mari Léonard.
Le 28 mars 1941. Mon chéri, j'ai la certitude que je vais devenir folle à nouveau. Je sens que nous ne pourrons pas supporter une nouvelle fois l'une de ces horribles périodes. Et je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à entendre des voix et je ne peux pas me concentrer. Alors, je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Tu as été pour moi ce que personne d'autre n'aurait pu être. Je ne crois pas que deux autres eussent pu être plus heureux que nous jusqu'à l'arrivée de cette affreuse maladie. Je ne peux plus lutter davantage. Je sais que je te gâche la vie. Que sans moi tu pourrais travailler et tu travailleras, je le sais. Vois-tu, je ne peux même pas écrire cette lettre correctement. Je ne peux pas la lire. Ce que je veux dire, c'est que je te dois tout le bonheur de ma vie. Tu t'es montré d'une patience absolue avec moi et d'une incroyable bonté. Je tiens à dire cela, tout le monde le sait. Si quelqu'un aurait pu me sauver, cela aurait été toi. Je ne sais plus rien si ce n'est la certitude de ta bonté. Je ne peux pas continuer à gâcher ta vie plus longtemps. Je ne pense pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses que nous l'avons été.
Les nuits de la lecture. Lettre de Stéphane Mallarmé à Maria Gerhardt.
Mademoiselle, voilà plusieurs jours que je ne vous ai vue. À mesure qu'une larme tombait de mes yeux, il était doux à ma tristesse que je pris une feuille de papier et je m'efforçasse d'y traduire ce que cette larme contenait d'amertume, d'angoisse, d'amour et, je le dirais franchement, d'espérance. Aujourd'hui, elles ne sont plus faites que de désespoir. Ces lettres, je les gardais, je les entassais chaque matin, pensant à vous les remettre en osant croire, non pas que vous les liriez toutes, mais simplement que vous jetteriez les yeux au hasard sur quelques phrases et que vous enivre et qu'on ressent lorsqu'on est aimé. Ce rayon devrait faire ouvrir en votre cœur la fleur bleue mystérieuse et le parfum qui naîtrait de cet épanouissement, espérais-je, ne serait pas ingrat. Je le respirerai. On appelle l'amour, ce parfum. Aujourd'hui, la désillusion est presque venue. J'ai brûlé ces lettres, qui étaient les mémoires d'un cœur. Du reste, elles étaient trop nombreuses, et cela vous eût fait rire de voir que je vous aimais tant. Je les remplace, ces sourires et ces soupirs, par ce papier banal et vague que je vous remettrai je ne sais quand, et Dieu sait où. Toute la gamme de ma passion ne sera pas scrupuleusement notée comme elle l'était. Je me contenterai d'écrire ici les trois phrases qui sont toutes son harmonie. Je t'aime, je t'adore, je t'idolâtre. Pardonnez-moi, ô ma reine, de vous avoir tutoyé dans cette litanie extatique. C'est que, voyez-vous, je suis comme un fou, et égaré depuis quelques jours. Quand une flèche se plante dans une porte, la porte vibre longtemps après. Un trait d'or m'a frappé, et je tremble, éperdu. Retirez-le ou enfoncez-le plus avant. Mais ne vous amusez pas à enfouiller mon cœur. Dites oui ou non, mais parlez, répondez. Cela vous amuse donc bien de me faire souffrir. Je pleure, je me lamente, je désespère. Pourquoi cette sévérité? Est-ce un crime de vous aimer? Vous êtes adorable et vous voulez qu'on vous trouve détestable, car il faudrait vous trouver détestable pour ne pas vous aimer. Vous qui êtes un regard divin et un sourire céleste. Vous êtes puni d'être un ange, je vous aime. Pour me punir à mon tour de vous aimer, il faudrait n'être plus un ange, et vous ne le pouvez pas. Donc laissez-moi vous contempler, vous adorer et espérer. Adieu. Je vous embrasse avec des larmes dans les yeux, séchez-les avec un baiser ou un sourire, au moins. Je vous aime, c'est tout ce que je sache dire et penser. Écrivez par la poste à cette adresse. Monsieur S. M. Poste restante, à Sens. Cela me parviendra ainsi. J'attends ma sentence. J'irai encore vous voir au lycée. Je suis heureux de vous voir, même de loin. Il me semble, quand vous tournez la rue, que je vois un fantôme de lumière et tout rayonne.
Les nuits de la lecture. Brada, lettre d'une amoureuse. J'entends le bruit de tes pas, et cependant je voudrais que tu n'entres jamais. T'attendre est une volupté si enivrante. Il me semble alors me sentir soulevée de terre par une force invisible. Mon âme s'élance hors de moi et va à ta rencontre. Puis comme un événement inattendu qui me fait tressaillir, la porte s'ouvre, tu parais, je te vois. Tu t'approches et tes lèvres froides d'émotion s'appuient sur les miennes. Oh mon amour, on me dit que tu ne m'aimeras pas longtemps et je le sais. Je le sais. J'ai passé mon midi et toi, tu te lèves dans la vie, rayonnant comme la jeunesse. Mais tu m'auras aimé. J'aurais été serrée dans tes bras et tes mains, tes belles mains, si fortes et si douces, se seront attachées éperdument aux miennes. J'écris ces lettres pour que tu les lises lorsque tu ne m'aimeras plus. Peut-être feront-elles courir en toi un léger frémissement de volupté. Peut-être ton visage se reverra-t-il de cette tristesse qui précède le désir. Tu te souviendras. Lorsque je ne serai plus qu'une pauvre cendre dispersée, je veux que tu te souviennes. Cela et rien de plus. Que tu revoies les lieux où nous nous sommes aimés. Que tu sentes encore l'odeur de la terre matinale qui montait vers nous des jardins. Quand serrés l'un contre l'autre, nous allions saluer le jour nouveau.
Les nuits de la lecture. Lettre d'Arthur Rimbaud à Paul Verlaine.
Les 4 et 5 juillet 1873. Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serai bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêtée. Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer. Reviens. Sois courageux, cher ami. Rien n'est perdu. Tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici bien courageusement, patiemment. Ah, je t'en supplie. C'est ton bien d'ailleurs. Reviens, tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion. L'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas ? Nous avons vécu 2 ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire ? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te trouver où tu es ? Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublies pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours là. Dis, réponds à ton ami. Est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble ? Sois courageux. Réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur. Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi toute la vie.
Les Nuits de la Lecture vous sont proposées par la Direction Générale déléguée aux bibliothèques et musées via le pôle patrimoine, rayonnement culturel et scientifique d'Université de Paris.